Laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant. Ça impressionne le papier carbone, mais c'est du vent.
Bonjour, comme tous les mercredis de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute de RESF sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net pour nous écouter partout dans le monde. Cette émission sera rediffusée mardi matin de 7h à 8h et très bientôt téléchargeable sur le site de RESF. À la rubrique radio, c'est très simple, il faut aller http://resf.info/radio. Aujourd'hui, on est en compagnie de Laure Blondel, de la NAFE et de Microeurope et de Open Access Now. Donc bonjour Laure.
Bonsoir.
Et on est en compagnie de Claude Péchonski, qui est de l'Observatoire du Centre de Rétention Administrative de Palaiseau.
Bonjour.
Voilà. Et nous sommes avec aussi, excuse-moi, j'ai pas retenu ton prénom.
Roby Péchonski.
Voilà. Donc aujourd'hui, donc, c'est l'émission, comme tous les premiers mercredis du mois, enfin presque de chaque mois, parce que le mois dernier, c'était moi qui n'étais pas en forme, on n'a pas pu le faire, hein, on est en compagnie de Migreurope. Et nous allons parler de l'enfermement et notamment du livret « La face cachée des camps d'étrangers et étrangères en Europe » et de la bande dessinée « CRA » et peut-être au-delà donc, de la plaquette de l'enfermement, de la... et pardon, au-delà de la plaquette, hein, ou de la brochure, un mot en plus sur l'enfermement en Grande-Bretagne, puisque Laure, tu reviens tout juste du Royaume-Uni, où tu étais ce week-end pour le 21e anniversaire de la mobilisation Campaign to Close Campsfield. Mais aussi, on parlera des initiatives prévues à Palaiseau ce vendredi 5 décembre et sur Paris le 8 décembre. Donc, comme vous allez toutes les deux, je crois, avoir beaucoup de choses à dire, on a fait un tout petit journal. Et en plus, je crois que vous allez apporter des infos dans le journal. Donc, un projet de loi, en tout cas, dans un autre journal, hein, c'est un projet de loi anti-squat qui a été initié par la sénatrice et maire de Calais, Natacha Bouchard, et qui est en débat au Sénat. Donc, qui dit que donc je vais juste me contenter de lire les motivations de ce projet de loi. Hein. L'amplification des occupations illicites de domicile, je cite, hein, ne peut laisser indifférent le législateur. Les exemples se multiplient de personnes qui, de retour de vacances, d'un déplacement professionnel ou d'un séjour à l'hôpital, ne peuvent plus ni rentrer chez elles parce que les squatteurs ont changé les serrures, ni faire expulser ses occupants. Donc, on part d'un scénario qui est un scénario de science-fiction, mais sans doute, c'est le principe de précaution, hein, puisque si c'est de la science-fiction, ça pourrait arriver. Donc, je pense qu'il faudrait se prévenir de l'attaque des Martiens. C'est donc, on part d'un scénario de science-fiction et par principe de précaution. Alors, il faut y rappeler que précaution, ça s'écrit avec un T et pas avec deux S. Hein. Donc, la proposition de loi, je recite, hein, qui vous est soumise, vise à faciliter les expulsions d'occupants illégaux en allongeant de 48 à 96 heures la durée pendant laquelle le flagrant délit d'occupation sans titre d'un logement peut être constaté. Elle vise ensuite, dans son article 2, à permettre au maire qui aura cherché par tout moyen à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé illégalement, de demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux. Alors on peut se demander, hein, si les propriétaires ou les locataires des lieux restent introuvables, c'est que s'ils ont, enfin c'est une hypothèse tout à fait personnelle, hein, c'est que s'ils ont été expulsés par les squatteurs, ils sont devenus des SDF, puisqu'on n'arrive pas à les contacter, et qui, non seulement des SDF, mais sans domiciliation administrative, et qu'ils ont probablement dû s'exiler et prendre la clandestinité, tellement ils ont eu peur des squatteurs. Je ne vois pas d'autres raisons pour lesquelles, puisque c'est des vacanciers, c'est précisé, des vacanciers ou des gens qui rentrent de l'hôpital ou des gens qui sont en mission professionnelle qui rentrent chez eux disparaissent et que le maire n'arrive pas à les contacter. Et donc ils ont dû prendre certainement la clandestinité, comme en Irak ou en Syrie, hein, ils ont eu très peur des squatteurs. Et à propos de la Syrie, donc on avait annoncé il y a quelques semaines de ça que le programme alimentaire mondial, hein, donc de l'ONU, manquait d'argent et devait réduire les rations aux réfugiés syriens. Eh bien, il n'y a plus de thunes, donc il n'y a plus de rations du tout. Il n'y a plus d'aide alimentaire pour les dits réfugiés. L'aide est stoppée. Alors, c'est à se demander, quand on voit le traitement qui est donné aux, aux réfugiés à Calais, un peu partout, que l'on parle de... Quand on parle en Méditerranée des Syriens, on dit, alors qu'il s'agit de réfugiés, que quand même 20% de la population du Liban actuellement est constituée de réfugiés syriens, etc. On se met à parler de, comment dire, de candidats à l'immigration clandestine. Et, donc, ben bon, plus rien
alors,
du tout.
Yves, sur la question des Syriens, au Liban, c'est bien plus que ça, puisqu'on est à presque 25% de la population qui est syrienne au Liban. On est donc à 1,5 million de réfugiés syriens au Liban, plus d'1 million en Turquie. Ces Syriens sont bloqués dans ces pays de départ, puisque l'Europe a une solidarité à deux vitesses, puisqu'elle affiche une solidarité ouverte envers les Syriens. Par contre, quand il s'agit de les accueillir, c'est autre chose. Puisque donc la France avait annoncé l'accueil de 500 réfugiés syriens. La Grande-Bretagne, c'est à peu près pareil. Seule la Suède et la Norvège et un peu l'Allemagne ont pris vraiment leur part quant aux réfugiés syriens. Et ces Syriens, donc, sont obligés, effectivement, de prendre de plus en plus de risques pour arriver à nos frontières, pour arriver en Europe, et sont effectivement accueillis dans des situations qui sont, dans des conditions qui sont absolument indignes. Et si on prend l'exemple de Calais, depuis plus d'un an, les réfugiés syriens qui sont à Calais appellent tant le gouvernement britannique que le gouvernement français à mettre un terme à la situation humaine, matérielle, désastreuse à Calais, et à les laisser aller en Grande-Bretagne de manière légale, où ils pourront demander l'asile, la plupart ayant de la famille en Grande-Bretagne.
Voilà, hein, c'est pas la plupart des Syriens qui ont de la famille en Grande-Bretagne, mais la plupart des Syriens qui veulent aller en Grande-Bretagne veulent y aller parce qu'ils ont de la famille. Donc c'est un petit peu à se demander finalement contre qui on est en guerre. Hein. Et lundi matin, donc, le corps d'une personne qui pourrait être un exilé, mais on n'en sait rien en vérité, c'est uniquement une question de faciès, a été retrouvé, et de conditions, a été retrouvé sur l'autoroute A16 entre Calais et Boulogne. Donc pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Peut-être tu as des informations, Laure ?
Alors sur ce point précis, non, mais juste préciser qu'à Calais, depuis le début de l'année, on en est à plusieurs dizaines de migrants qui sont décédés, tous dans des conditions différentes, soit qu'ils ont eu des accidents de la route, heurtés par des camions, heurtés par d'autres véhicules, en essayant d'échapper à la police ou aux groupes fascistes qui sévissent à Calais, soit parce qu'ils ont essayé de traverser la Manche dans des camions et sont décédés dans ces conditions. Conditions-là. Bref, les conditions de décès sont différentes, diverses, mais on en est quand même à plusieurs dizaines de migrants qui sont décédés à Calais depuis le début de l'année.
Voilà, on peut rajouter tomber à l'eau dans un canal, on peut rajouter qu'ils ont essayé de rejoindre un bateau pour monter dessus parce que ça paraissait plus facile d'attraper le bateau à la nage, etc. Hein.
Je voulais revenir une minute sur la législation, oui, anti-squat. Ce qu'on observe de plus en plus, en particulier par rapport aux familles roms, la manière donnée aux maires de passer par-delà les réglementations et le passage par la justice pour pouvoir effectuer des expulsions. Donc je pense que ça va dans le sens, encore une fois, de diminuer les droits déjà pas très étendu des familles qui sont dans des situations précaires.
Voilà, ça me revient tout de suite. Et sinon, donc, les 11 Soudanais, et ça je crois aussi que tu avais des informations, hein, les 11 Soudanais qui avaient été raflés à Calais et qui s'étaient retrouvés en rétention au Ménilablo, donc ont été libérés hier et n'ont pas été expulsés au Soudan. Donc c'est quelque chose qui se produit régulièrement, c'est-à-dire qu'on... D'une part, on essaie de banaliser les possibilités d'expulsion vers le Soudan. D'autre part, et ça fera le projet d'une prochaine émission, on est en train de négocier avec Bachar el-Assad, qui a quand même recherché par Interpol et par un peu tout le monde pour crimes contre l'humanité, ce qui n'empêche pas nos dirigeants de négocier avec lui pour retenir les migrants plus au sud. Et donc, et en même temps, on fait pression comme ça sur les migrants en voulant... en les menaçant, en étant très près de l'expulsion. Et s'ils ont été libérés, c'est simplement parce que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas demandé la prolongation de leur rétention. Et puis ça, je viens de l'apprendre juste avant de venir, hein, c'est Donc une famille albanaise qui est composée d'une maman et de sa petite fille de 5 ans ont été placées au centre de rétention de Metz le 27 novembre en soirée sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français définitive, et elles ont toutes les deux été éloignées le lendemain matin très tôt. Et donc l'ordre de Malte n'a rien pu faire, puisqu'ils sont arrivés après que l'ordre de Malte, qui s'occupe des personnes enfermées au centre de rétention de Metz, travaille. Donc ils sont arrivés après et ils ont été expulsés avant qu'ils arrivent. Donc l'ordre de Malte n'a pas pu les rencontrer et les aider à exercer leurs droits. Et la maman avait été déjà placée seule au centre de rétention à Metz le 17 septembre. Elle avait refusé l'embarquement, avait été libérée, transférée au CRA du Ménil-Amelot, puis libérée. Et il s'agit, rien que pour Metz, de la cinquième famille, ou la sixième famille placée en rétention dans ce centre.
Je peux dire qu'au Ménil-Amelot, en fait, fin octobre, là, je ne sais pas combien de familles on en est, mais fin octobre, il y avait 15 familles qui avaient été retenues. Et donc, c'est juste au moment où, à Toulouse, la famille Kodouzov, qui avait une petite Aïcha de quelques mois, pouvait sortir après que la Cour européenne des droits de l'homme ait demandé la libération en attendant un jugement sur le fond. Juste à ce moment-là, une 16e famille était retenue au Ménil-Amelot avec 4 enfants. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a une situation extrêmement inquiétante et extrêmement dramatique.
Alors, sur ce point, juste rappelons qu'en 2012, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Popov pour l'enfermement de mineurs accompagnés, donc avec leur famille, en centre de rétention. Que depuis, normalement, c'est l'assignation à résidence qui doit prévaloir, l'enfermement des mineurs en centre de rétention n'étant plus tellement légal, n'est-ce jamais vraiment été d'ailleurs. Et en fait, très très concrètement, les familles, les mineurs continuent d'être enfermés dans les centres de rétention. Il y a une alternative qui a été trouvée dans certains cas où on a vu des familles qui en fait n'étaient pas en centre de rétention mais détenues dans un hôtel avec des policiers devant la porte, ce qui concrètement revient un petit peu au même. On est dans une situation de privation de liberté sous une autre forme. Et donc l'enfermement des mineurs, que ce soit en centre de rétention, et je vais élargir un petit peu, ou en zone d'attente, puisque si en centre de rétention, normalement, les mineurs ne peuvent plus être maintenus en zone d'attente, il n'y a aucune directive en ce sens. Les mineurs, qu'ils soient isolés ou en famille, sont maintenus en zone d'attente. Et je rappelle juste, accessoirement, que la France a signé une très belle convention qui s'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit, qui précise très clairement que l'intérêt supérieur du mineur doit prévaloir dans toutes les situations, et l'intérêt supérieur d'un mineur lorsqu'il est enfermé, privé de liberté dans des conditions qui sont parfois largement contestable. On se demande un petit peu où est-ce qu'il est cet intérêt supérieur.
On a trouvé une très bonne parade d'ailleurs pour un certain nombre de mineurs, mais qui sont les grands mineurs, les tout petits mineurs, c'est compliqué. C'est plus compliqué, mais il suffit de transformer un mineur en majeur. Exactement. Sans attendre qu'il ait grandi. Et pour ça, on a un outil qui est imparable, c'est le test osseux.
Voilà, le test osseux qui, en fait, n'est pas du tout, qui scientifiquement est tout à fait, ne repose sur aucune connaissance scientifique. Quand on interroge les médecins, il y a eu plein de rapports qui ont été faits pour dire que effectivement c'était pas fiable, mais qui continue quand même d'être appliqué. Et nous, on le voit au Crat Palaiseau, puisque l'Observatoire citoyen rencontre les personnes qui sont retenues. Cette année, on a eu 4 jeunes mineurs qui avaient leurs extraits d'actes de naissance, mais qui n'étaient pas, reconnus mineurs de par le test osseux. On a encore eu l'affaire Hiéro, dont vous avez dû certainement parler. Dont vous avez beaucoup parlé. Et on voit que entre 17 ans, 3 quarts et 18 ans, 19 ans, enfin, en plus, ce sont des tests qui reposent sur des échantillons humains d'Amérique du Nord. Et donc, ça ne repose
sur
rien.
Mais surtout, ce sont des tests qui ont leur cohérence pour déterminer un âge, mais un âge osseux avec une utilisation thérapeutique qui n'a aucun sens pour donner un âge légal. Pour donner c'est comme si je dis ma maman, elle a un cœur de 20 ans, même si elle en a 80. C'est pas parce qu'elle a un cœur de 20 ans qu'on peut dire qu'elle a 20 ans. Et quelqu'un qui a un âge mental de 3 ans et qui en a 45, il a 45 ans, il n'a pas 3 ans, c'est un âge osseux. C'est tout.
D'autant que ces tests osseux, qui sont effectivement largement contestés dans le milieu médical, ont une fiabilité de plus ou moins 18 mois, ce qui est quand même assez énorme, qu'une pratique très fréquente lorsque ce test osseux conclut à la minorité est de considérer que les documents qui sont en possession du mineur sont faux et que ce mineur est donc effectivement en fait majeur. Donc que le test osseux en fait conclut à la minorité ou à la majorité, et je dis ça sans valider le recours au test osseux, finalement va être utilisé dans un sens ou dans l'autre par l'administration pour finalement toujours plus et toujours à chaque fois conclure à la majorité du jeune. Et je voulais dire aussi sur les tests osseux qu'aujourd'hui en France c'est le seul outil qui est utilisé pour déterminer l'âge d'un mineur, alors que le défenseur des droits demande très clairement à la France de trouver d'autres solutions pour déterminer l'âge des jeunes, ce qui n'est absolument pas la situation aujourd'hui.
Voilà, et puis on va s'arrêter sur les tests osseux. Juste peut-être un petit mot pour reparler d'Al-Kassim, qui est un jeune à Lyon dont les tests osseux, ce n'était pas 18 mois, mais le poignet avait donné 17 ans et demi, la clavicule 35 ans. Donc, si on fait la moyenne, la minorité est exclue. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, hein, c'est-à-dire de parler de cette brochure éminemment intéressante, hein, La fâche cachée des camps d'étrangères en Europe, et je propose qu'on fasse une petite pause. Une petite pause musicale, par exemple, en écoutant Douce France.
Hein. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance. Gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. La joie ou la